Le journal, Bernadette Chamonnaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Manger mieux, manger bio. La Convention citoyenne pour le climat rend ses propositions ce week-end. Dans ce journal, nous verrons ses ambitions en matière d'alimentation. L'Allemagne reconfine en partie après l'alerte au coronavirus dans le plus grand abattoir d'Europe. Nous y serons. Dans ce journal encore, SOS Méditerranée qui va reprendre ses opérations de secours des migrants. Les violences à Dijon, les renseignements avaient alerté. La réponse policière a-t-elle trop tard? On fait le point, alors qu'à Bayonne, la police lance une opération séduction. On verra comment.
Un mot sur les invités de cette matinale. À 7h50, je recevrai David Cormand, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Et puis à partir de 8h20, en attendant la fête de la musique demain et les nombreux concerts demain sur France Inter, et bien rendez-vous dès ce matin avec Pomme et Gaëtan Roussel. Et vous pouvez poser vos questions aux deux chanteurs, musiciens, interprètes 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc l'ultime rendez-vous aujourd'hui de la Convention citoyenne pour le climat.
Les 150 citoyens qui ont planché pendant 9 mois sur les moyens de réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre d'ici 10 ans font un dernier tri dans leurs propositions. Parmi celles validées hier, les 110 km/h sur autoroute ou encore l'interdiction de la publicité pour les produits polluants, aujourd'hui ils passent en revue celles sur l'alimentation. Elles ont tout un objectif, Célia Kiray, manger plus sain, manger plus local.
Les citoyens ont des objectifs très ambitieux, aboutir à 50% d'exploitation bio, sans pesticides, ou au minimum respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire agroécologique. Ils veulent davantage de menus bio et végétariens dans les cantines, tout cela pour réduire les gaz à effet de serre. Mélanie a travaillé sur toutes ces mesures.
L'axe majeur qu'on a identifié, c'est en fait la politique agricole commune. Les financements doivent être redirigés vers une agriculture plus durable, vers l'agroécologie par exemple. On a une grosse ambition sur tout ce qui est restauration collective, d'ailleurs aussi bien publique que privée. C'est aider aussi aux investissements qui sont nécessaires et puis achat de circuits courts, bio, aliments de qualité, etc. Qu'on légifère là-dessus, que ça s'applique enfin.
Et ce sujet intéresse tous les citoyens de cette convention. Dans son groupe sur le logement, William Aucan s'est mobilisé pour des mesures favorables à une agriculture durable.
Pour moi, oui, ça fait partie de la résolution du problème climatique. Effectivement, on doit consommer localement, produire localement. Dans le groupe Se Loger, nous, on a fait de la place au niveau de nos sols, c'est-à-dire qu'on a limité l'étalement urbain pour laisser l'espace agricole ouvert à l'agriculture et protéger ça. Se nourrir, c'est la nouvelle richesse du futur.
Enfin, les citoyens proposent un moratoire sur certains traités internationaux, comme le CETA, pour limiter les importations.
Célia Kiray, vous pouvez retrouver sur notre site franceinter.fr les 10 propositions les plus marquantes de la Convention citoyenne pour le climat. Le président de la République aura demain sur son bureau le résultat final et il s'exprimera ensuite le 29 juin. La France se déconfine un peu plus. Matignon l'a annoncé cette nuit. Les stades, les hippodromes rouvriront au public le 11 juillet avec un nombre maximal de 5000 personnes. Jauge valable au moins jusqu'au 1er septembre. Les sports collectifs pourront reprendre dès lundi. En revanche, les sports de combat restent interdits.
Et la France et le monde se déconfinent, mais l'OMS alerte toujours.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a pris la parole hier au siège à Genève. Nous entrons dans une ère dangereuse. 150 000 nouveaux cas en une seule journée dans le monde, un record depuis le début de l'épidémie. Alors, déconfiner ne veut pas dire baisser la garde, au contraire. Si le Brésil est l'épicentre de l'épidémie, en Europe, c'est en Allemagne, en Rhénanie-Westphalie, que se concentrent les inquiétudes avec ce gros foyer dans le plus grand abattoir européen. Ludovic Pietro s'est rendu sur place où l'on reconfine.
Les crèches et les écoles de plusieurs villes et villages alentours ont été fermées. Elles ne rouvriront qu'à la rentrée. Il a suffi de quelques cas positifs chez des enfants de salariés de l'abattoir pour placer des classes entières et leurs familles en quarantaine. C'est une catastrophe pour tout le monde, dit ce transporteur routier. Il livre souvent cet abattoir et veut rester anonyme. C'est une entreprise pourrie. Le nombre de cas positifs prouve bien que c'est de l'esclavage. Un abattoir mortel pour les animaux et pour les travailleurs, peut-on lire sur une pancarte brandie par une poignée de manifestants défenseur du bien-être animal. Sur le parking, quelques voix s'élèvent pour pointer des abus, la sous-traitance d'employés est-européens, des Polonais, mais moins qu'avant, aujourd'hui surtout des Bulgares et des Roumains comme Vincenzo. Il dit qu'il n'a pas de problème avec son chef, puisqu'il est roumain lui aussi, il gagne sa vie. Quant aux conditions de travail, il est satisfait à 80%. 100%, c'est impossible. Mais Vincenzo ne rentre pas dans les détails, ne dit pas non plus comment il est hébergé. Pour certains, ce serait un peu les uns sur les autres, et donc une propagation plus rapide du virus selon plusieurs associations locales. Arrêt David Enbruck dans l'ouest de l'Allemagne, Ludovic Piétenu, France Inter.
Stoppé par la pandémie, les opérations de secours de migrants s'apprêtent à reprendre en Méditerranée avant qu'ils ne repartent au large de la Libye. Mathilde Vinceneux s'est rendue sur l'Ocean Viking, le bateau des SOS Méditerranée, à quai à Marseille.
Avec sa coque orange et ses 70 mètres de long, l'Ocean Viking va prendre le large le plus tôt possible parce qu'il y a urgence. Sophie Beau, la cofondatrice de l'association SOS Méditerranée.
Depuis 3 mois, en fait, même si l'Europe s'est confinée, les départs de la Libye n'ont pas cessé. Il y a eu des morts. C'est des naufrages invisibles. Il y en a eu un qui a été documenté parce que des pêcheurs ont trouvé des corps qui flottaient. Voilà, c'est une crise humanitaire qui continue en fait.
Alors pour sauver le plus de vies possible, le navire est aménagé. Il peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Les 31 membres d'équipage, marins, sauveteurs, soignants, sortent tous de 14aine, testés négatifs à la Covid-19. Et pour limiter les risques, ils sont pour l'instant les seuls autorisés à monter à bord. Anne est médecin, elle détaille depuis sa cabine le protocole pour les sauvetages.
On leur fournit un masque, il y a une première prise de température qui est faite pour pouvoir dépister s'il y a un risque que cette personne soit atteinte de Covid. Et dans ce cas-là, la personne est isolée pour éviter une chaîne de transmission sur le bateau.
Reste donc pour l'équipage à espérer que les pays européens autorisent les migrants sauvés à débarquer rapidement dans des ports sûrs. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
Le président de la République saisit le Conseil supérieur de la magistrature après les propos de l'ancienne patronne du parquet national financier qui dit avoir subi des pressions du parquet général lors de son enquête sur l'affaire Fillon. Pression qu'elle a ensuite précisée, elle n'était pas politique. Mais devant l'émotion suscitée par ses propos, le chef de l'État dit vouloir lever tout doute sur l'indépendance de la justice. Et puis on l'a appris, Nordal Lelandais est renvoyé devant les assises pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Renvoi pour meurtre, non pas pour assassinat. Le juge d'instruction n'a pas retenu la préméditation.
À propos des violences à Dijon entre Tchétchènes et Maghrébins, les autorités auraient été prévenues?
C'est ce qu'affirme la police, qui estime avoir été mise en cause pour avoir tardé dans sa réponse. Les services de renseignement avaient été alertés par les réseaux sociaux, Caroline Félix.
Le jeudi, les policiers et gendarmes repèrent un message sur Snapchat. C'est un Tchétchène basé dans l'Aube qui appelle à la vengeance. Une expédition punitive après une bagarre entre des ados tchétchènes et, je cite, des Arabes de 25-30 ans. Aujourd'hui, tous les Tchétchènes à Dijon appellent le message. Les policiers rédigent alors une note. Elle prévient qu'il pourrait y avoir un raid punitif à Dijon. Cette alerte emprunte le circuit classique, service central du renseignement territorial à Paris, direction régionale de Dijon et préfecture. Mais il y a 2 choses que la note n'arrive pas à déterminer, la date précise et surtout l'ampleur de la descente des Tchétchènes. Dans les faits, ils débarquent en très grand nombre à Dijon et certains sont armés de barres de fer, de battes et même d'armes à feu. Les forces de l'ordre sont dépassées par l'ampleur des affrontements entre les deux communautés. Il faudra plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale. Hier soir, la préfecture de Côte d'Or n'a pas souhaité faire de commentaires.
Caroline Félix, un policier qui ne vous donne pas des prunes mais des bonbons. Étonnant, non. Opération séduction de la police nationale à Bayonne dans le contexte de tensions que l'on connaît actuellement. Écoutez ce reportage de Paul Nicolai devant l'école Jules Ferry.
Masque sur le visage pour les raisons sanitaires que l'on sait et paquet de bonbons en main, les policiers jouent les Pères Noël avant l'heure.
On n'est pas seulement répressif.
Merci.
Bonne journée, madame.
Je pense que ça peut leur faire du bien, oui. Parce qu'il y a des fois, on ne montre pas la bonne image qu'ils ont. Or qu'ils sont là pour nous protéger, nous, quoi.
C'est une opération qu'on a voulu mener pour dire aux gens qu'on est à leur côté, tout simplement.
Bah, ils ont déjà une bonne image, là, pour le coup de la police, donc ça valide juste le choix.
L'objectif pour les forces de l'ordre, c'est de rechercher auprès de la population le soutien qu'elles estiment ne plus avoir du côté de la place Beauvau, en but avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur les questions de racisme et les méthodes d'interpellation. Les syndicats estiment avoir été lâchés. Laurent Saïssé, syndicat Alliance.
Nous sommes en colère et c'est une opération asyndicale. Ce sont des collègues de base qui ont décidé de faire cette opération pour montrer que la police était proche de la population. Suite aux propos de notre ministre, quand même, qui nous a jeté en pâture aux médias, en nous disant que nous étions une police raciste, fasciste et violente.
Nul doute qu'il faudra plus que quelques bonbons pour rétablir la confiance entre les policiers et leurs ministres.
Et puis on en sait un peu plus sur la façon dont va se dérouler le 14 juillet. Ce sera un rassemblement limité, place de la Concorde, sans public. Hommage aux héros de la crise sanitaire, les soignants, mais sans leur présence physique, trop compliquée à organiser.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz.